Vous regardant, je me dis, c'est des gens qui ont bien mangé. Ils sont satisfaits, relativement décontractés avec quelque chose qui se passe en bas, là. Et qui emporte le sang du cerveau, ça aussi c'est connu. C'est la réalité, il faut vivre dans la réalité, nous avons dit. J'aimerais vous donner une petite survue sur l'après-midi. Je parlerai d'abord sur le thème qui a été donné comme titre, l'hygiène relationnelle, où je pourrais mettre « veiller sur soi-même ». Apprendre à veiller sur soi-même. Parce que je crois qu'il y a pour moi un but du fait que nous avons compris que les conflits, nous ne pouvons pas les éviter. Si on veut éviter les conflits, on fuit. Et le but n'est pas de fuir pour être protégé. Le but est de savoir traverser les conflits, de vivre dans les relations qui peuvent être de temps en temps conflictuelles, de ne pas perdre l'amour et de rester debout. C'est ça le but. Et je crois que pour apprendre à le faire un peu mieux, il y a certaines choses qui sont liées à savoir veiller sur soi-même. Veiller sur soi-même n'est pas lié pour moi au fait de fuir, justement, mais au fait de savoir se protéger d'une bonne façon. C'est de cela que j'aimerais parler d'abord. Après, il y aura ce moment de questions et j'ai pensé que je donnerais volontiers la priorité aux questions qui seraient liées aux situations que vous vivez, vous, personnellement, peut-être aussi au sein de votre Église. Je sais que c'est difficile d'en parler, peut-être, mais d'autre part, j'aimerais bien pouvoir entrer dans ce moment de questions à cet essai d'appliquer ce que j'ai dit à certaines situations concrètes. Alors, si vous avez l'impression qu'il y a la possibilité de parler, bien sûr, sans donner de nom ou sans essayer d'accuser qui que ce soit, mais d'en parler de ce que vous vivez, je donnerai volontiers priorité aux questions qui seraient liées à des situations concrètes dans votre Église. J'aimerais vous encourager de poser n'importe quelle question. J'ai appris en étant orateur que la bêtise, s'il y en a, ne réside jamais dans la question, mais toujours dans la réponse de l'orateur. Alors, n'hésitez pas. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, j'ai toujours aussi compris peu à peu que j'ai commencé à aimer ces moments de questions parce que ça peut clarifier ce qu'on a dit d'une façon extraordinaire parfois. Et puis après, il y aura un moment qui me tient beaucoup à cœur. C'est un moment que je voudrais passer avec vous devant le Seigneur, un peu dans le style de ce qu'on a vécu l'année dernière, dans la journée analogue et celle d'avant, c'est-à-dire un moment où j'aimerais vous inviter, vous aurez aussi le temps de vous y préparer, de prendre vraiment les choses en main et de faire des pas personnellement. Parce que je suis convaincu qu'à travers ce que vous avez entendu, le Seigneur vous a touché quelque part. Vous avez compris certaines choses. Il y a peut-être des choses où vous vous dites « je veux me débarrasser de cette attitude ». Il y a peut-être des choses, des relations où vous vous êtes dites « il faudrait que je me réconcilie ». Où vous vous êtes dites « j'aimerais pouvoir pardonner ». J'aimerais vraiment créer ou essayer de créer ce moment où vous pourrez être avec le Seigneur, parce que je me dis parfois, on entend tellement de choses. Et ça nous sert à quoi? Si nous ne pouvons pas passer aux actes et en faire quelque chose concrètement, c'est pour cette raison que j'ai veillé à développer des formes d'enseignement qui permettent aux gens aussi de faire un pas sur la base de ce qu'ils ont compris. Et je terminerai par un moment où il s'agira de comment mettre en pratique maintenant ce que vous emportez avec vous. Donc c'est un peu le déroulement de la journée, de l'après-midi encore là. Et j'ai envie de prier au début. Seigneur, nous pouvons te demander tout. Et pourquoi pas te demander maintenant que tu t'occupes de ce qui se passe dans notre corps, au niveau de la digestion qu'il fait. Nous avons parlé de cette digestion tout à l'heure en voulant apprendre de notre corps, mais maintenant nous aimerions aussi être là, présents. Je te dis merci de ce que tu as prévu pour chacun aujourd'hui. Une portion de vie nouvelle, une portion de prise de conscience, un certain nombre de choses concrètes et pratiques qu'il pourra emporter. Et j'aimerais te demander que tu veilles à ce que cette récolte que tu as prévue pour chacun, personnalisée, individualisée, selon les besoins que chacun a, que cette récolte puisse vraiment être complète, que rien ne manque. Sois celui qui nous dirige, qui me dirige en parlant et qui ouvre les cœurs pour qu'ils puissent recevoir ce qu'ils doivent recevoir chacun. Merci pour ta présence, Seigneur, et pour cette force qui est là de ta part. Amen. Alors, veillez sur soi-même. Pour apprendre à se protéger d'une bonne façon, il y a une condition première préalable que vous n'attendriez peut-être pas. Il faut se savoir responsable de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Je crois que là, il y a quelque chose de très très important pour tout ce qui est lié aux relations. Des relations sont simples avec des personnes qui sont d'accord de porter la responsabilité de tout ce qu'ils sont et de tout ce qu'ils font. Les relations sont très difficiles avec les personnes qui refusent d'être responsables et qui refusent de devenir coupables. Il y a des gens qui essayent de traverser la vie sans devenir coupables. Et du fait qu'on ne peut pas y arriver, parce que c'est évident pour tout le monde, leur seule solution est de rejeter la faute sur les autres. Si j'avais une autre éducation, si j'avais eu d'autres parents, si j'avais une autre femme, si nous avions un autre pasteur, vous pourriez y aller. Je crois qu'il faut arriver au point où nous sommes d'accord de dire « Je suis d'accord d'endosser la responsabilité pour tout ce que je suis. » Pour tout ce que je suis et pour tout ce que je fais. Et ça va loin. Ça va loin dans ce sens aussi de dire, je suis d'accord de porter ma responsabilité pour mes émotions. D'arrêter de dire, je n'y peux rien. De dire, oui, je me suis emporté. Oui, j'ai menti. Oui, j'ai mal agi. Et c'est dans ce sens, je crois qu'en tant que chrétien, du fait que nous savons qu'il y a le pardon, nous pouvons apprendre, ça fait curieux de dire ça, je le sais, nous pouvons apprendre à être d'accord de devenir coupable. Parce qu'il y a le pardon. Personnellement, j'ai compris, et je me rappelle encore très bien, à travers quel texte j'ai compris que cette offre du pardon est tellement incroyable parce que tout ce qui sera pardonné sera vraiment effacé, que j'ai opté pour le choix que s'il y a le doute, si je suis coupable ou non, j'opte pour coupable. Du fait que ça pourra être effacé par le pardon. Dans le doute, prenez la responsabilité au lieu de la rejeter, de dire « Ah non, je n'y peux rien. » Qu'est-ce que vous perdez en disant « Seigneur, je viens devant toi. Je te demande pardon pour ce sentiment d'amertume. Ce n'est pas bon, je le sais. J'aimerais que tu m'en laves. Qu'est-ce que ça vous coûte ?» Alors, porter la responsabilité de nos actes rendra les relations plus faciles pour les autres et pour vous aussi d'entrer en relation. Lié à cette responsabilisation de la personne est une autre notion qui me tient à cœur, vous l'avez déjà rencontré, c'est la liberté. Pour pouvoir veiller sur vous, c'est la première chose sur laquelle il faut veiller. Votre liberté. Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté? Et là, j'aimerais montrer d'abord le premier texte. J'aimerais montrer le transparent avec les textes bibliques. J'ai tout simplement rassemblé un certain nombre de textes bibliques par rapport à la liberté. Et ces textes bibliques nous rappellent que la liberté est un cadeau, une offre de la part de Dieu pour nous. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Et là, se demeurez donc ferme. Et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Paul parle de la loi ici, c'est évident, mais il y a toute autre sorte d'esclavage sous lesquels nous pouvons nous mettre. L'esclavage de toutes ces choses où nous disons, il faut le faire. Ou, bien sûr, il faut entrer dans ces propos. Tout ce qui va dans le sens de où nous nous sentons obligés, où nous essayons, comme j'ai déjà dit, de satisfaire quelqu'un. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ce texte de Jacques 1, que le Seigneur, comme il est dit là, c'est dans Jacques 2, le Seigneur nous jugera selon cette loi de la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Seigneur nous dira une fois, tu n'as jamais été obligé, parce que je t'avais accordé la liberté. Tu n'as jamais été obligé. Pourquoi as-tu agi comme quelqu'un qui était obligé, qui devait absolument? Tu n'as pas choisi. Tu aurais pu choisir la liberté. Alors, qu'est-ce que c'est que la liberté? Et là, j'aimerais prendre le prochain transparent, celui. Oui, celui-là. Le secret de la liberté se trouve dans la vie de Jésus. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Jésus était si libre, incroyablement libre? Peut-être que tu éteins encore, s'il te plaît. J'aimerais d'abord encore expliquer quelque chose. Quand vous lisez les évangiles, vous vous rendez compte que Jésus avait une liberté que nous aimerions tous avoir. Il était vraiment libre. Cette liberté se montre à différents moments, très clairement, face à sa mère, aux noces de Cana. Qu'ai-je à faire avec toi, femme? Quelle liberté! Il le fait quand même après, mais attention! Il ne fait plus pour satisfaire sa mère. Il le fait parce que il semble avoir eu à l'intérieur l'ordre de la part du Père. Ou, face à ses disciples, à un moment donné, vous savez que dans sa première année peut-être, il y avait eu des foules qui lui couraient après. Ces foules en étaient déçues. Ces foules ont compris qu'il ne correspondait pas vraiment à leurs attentes. Il n'était pas ce libérateur-là qu'ils cherchaient. Et ils commencent à le quitter. À un moment donné, il est avec ses disciples et il leur dit, « Et vous, vous voulez aussi me quitter ?» Et quand je regarde le contexte, j'ai l'impression comme s'il leur ouvrait la porte et disait, « N'hésitez pas. Ne me faites pas l'aumône de rester avec moi. Vous pouvez partir. » Quelle liberté! Au lieu de prendre les gens et de se les garder, de veiller à ce qu'ils s'attachent à lui, non? Il les laisse libres. Vous pouvez partir, mes amis. La liberté à travers la passion. Quand on lit ces textes, c'est vraiment frappant de voir. Il n'y a aucun autre de ces personnages de la passion qui est libre comme lui. Sa liberté se montre en quoi? Dans le fait qu'ils peuvent faire tout avec lui. Ils peuvent se moquer de lui. Ils peuvent le déguiser. Ils peuvent lui cracher dans la figure. La liberté consiste dans le fait que toutes ces choses ne l'atteignent pas dans sa personne, dans un sens. Ça a été difficile à vivre, oui. Mais il en sort quelqu'un comme quelqu'un qui est indemne, qui n'est pas blessé, qui n'est pas vexé, qui a traversé un conflit sans perdre l'amour. Ah, quelle liberté! Quel est le secret de la liberté de Jésus-Christ? Vous savez, on se rend compte très rapidement quand on s'occupe de personnes humaines que la personne humaine, depuis la création, n'est pas un être libre. La liberté dans le sens humain que l'humanité a cherché à travers des siècles, elle est une illusion. Il suffit de regarder ce petit bébé. Il est complètement dépendant, complètement. L'homme est un être dépendant. C'est ça la réalité. Alors c'est quoi la liberté? La liberté veut dire que nous choisissons, nous pouvons choisir de qui nous voulons être dépendants. C'est là notre liberté. Et c'est la seule vraie liberté. Et si vous reprenez le système que vous connaissez, dans un sens, vous avez les trois dimensions relationnelles. Et dans ces trois dimensions, vous avez les choix que vous avez. Vous pouvez être dépendant des autres, et c'est ce qui est normal, c'est ce qui est naturel, c'est ce que la psychologie connaît. En parlant du filet social, moi je parle parfois du hamac social, où nous sommes dépendants de l'encouragement, de l'amour, d'être reçus, d'être accueillis. Nous sommes dépendants de tout cela. Ça, c'est une possibilité de dépendance. Et cette femme dont je vous ai parlé, qui a dit « j'ai tout fait pour être aimée », elle a reposé avec tout le poids de sa personne dans ce hamac social. « Gare à moi s'il ne m'aime pas. Qu'est-ce que je fais s'il ne m'aime pas ?» La crainte des hommes est liée à ce hamac social. « Je ne peux pas survivre s'il ne m'aime pas. » C'est une forme de dépendance. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans cette dépendance. Ils payent un prix incroyable pour être aimés. Ils font des compromis. Une autre possibilité de dépendance, c'est dépendre de soi-même, uniquement de soi-même. Et je crois que c'est la pire des dépendances. Celui qui ne peut que se satisfaire lui-même, dans un sens. C'est une dépendance qui mérite vraiment le nom dans le sens négatif. Je crois que beaucoup de dépendances, alcool ou drogue, sont liées à cette relation avec soi-même. Il y a aussi un terme qu'on utilise pour caractériser certaines personnes. On parle de narcissiste, narcissique. C'est cette dépendance de soi-même. Et je crois que c'est la pire. Et il nous en reste une, c'est celle de dépendre de Dieu. Notre liberté consiste à choisir de qui nous voulons dépendre. Et Jésus-Christ a choisi. Maintenant peut-être ce transparent. Ça m'a beaucoup frappé de comprendre que Dieu était là et que Jésus-Christ, le Fils, a choisi de dépendre à 100% du Père. Quand Jésus dit dans Jean 5, au verset 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. » il regarde ce que le Père fait, et c'est ce qu'il fait aussi lui. Ça veut dire, je me suis soumis totalement à toi, Père, et je veux dépendre de toi dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais. Et ce fait de dépendre de Dieu à 100% crée une indépendance totale face aux hommes et face à soi-même. Jésus-Christ n'a rien fait pour lui-même. Il n'a eu aucun égoïsme dans un sens. Il n'était jamais le but de ce qu'il a fait lui-même. Le but de tout ce qu'il a fait n'était pas non plus les hommes dans un sens, mais le but était Dieu. Et j'ai compris très rapidement, quand j'ai commencé à travailler à plein temps dans la relation d'aide, dans ce centre que j'avais fondé, les premiers 6 mois, j'ai fait, comme on dit souvent dans les cercles chrétiens, dans notre milieu, où on dit je vous sers. Et j'ai compris que de servir les hommes nous rendait dépendants d'eux. Servir ces personnes qui étaient face à moi me rendait dépendant de leur jugement. S'ils étaient mécontents de moi, malheur à moi. Et cette dépendance de leur jugement comprenait le danger de me mettre à leur volonté, de satisfaire leurs attentes. Et j'ai compris que c'était incroyablement libérateur de dire, je ne les sers plus, ces personnes, mais je te sers, Père. Et ce que tu fais dans ces vies, je veux aussi le faire. J'ai compris que c'était vraiment libérateur. Je crois que c'est vrai pour toutes les relations. Si vous avez l'impression que vous dépendez encore d'autres hommes, il y a dans un entretien pas très longtemps que quelqu'un a parlé du fait qu'il y avait d'autres hommes qui étaient sur le trône de sa vie. C'est qui peut les détrôner? C'est vous, uniquement vous. Sur le trône, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dépendre d'eux d'une manière ou d'une autre, d'avoir besoin de les satisfaire, de faire ce qu'ils veulent, parce que le risque sinon est trop grand. La liberté. Vous et moi, on n'arrivera jamais à 100% et zéro. Mais si nous voulons détrôner les hommes, si nous voulons être libérés de la crainte des hommes, nous n'avons qu'un choix, dépendre davantage de Dieu. Si à la place de dépendre les hommes, vous mettez Dieu à cette place dans ces relations, vous verrez l'effet libérateur. Veiller sur soi-même veut dire rendre à Dieu ce que lui appartient et devenir dépendant de lui. Faire de lui vraiment le maître de votre vie. C'est ça qui vous libérera. Vous savez ce qui est la conséquence? La conséquence est l'humilité. Hein? Oui. L'humilité. Si vous vous rendez dépendant, vous devenez humble. Si vous vous rendez dépendant de Dieu, vous devenez humble. Jésus a dit de lui-même, je suis humble. Et c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, humilité? J'ai une fois entendu une définition qui m'a beaucoup parlé. Humilité veut dire craindre Dieu sans avoir aucune crainte des hommes. C'est ça l'humilité. Il n'y a que quelqu'un qui est fort dans un sens qui peut être humble. Les faibles n'arrivent pas à être humbles. Les faibles dépendent trop des hommes pour être humbles. Et sous cette forme d'humilité, il y a toujours cette balançoire entre l'orgueil et le sens de n'être rien. L'humilité crée une très grande stabilité dans la personne. Voilà. Maintenant, peut-être le transparent du pont hollandais, Jean-Jacques. Si nous prenons cela dans les relations humaines, la liberté veut dire, je vis mes relations comme un pont hollandais où il y a deux parties. Et ça rappelle, bien sûr, ça rappelle l'autoroute dans un sens. Et ça rappelle l'amour indépendant. C'est-à-dire, je vis sur ma moitié du pont. Et je reste sur ma moitié du pont. Et j'ai la possibilité, le pouvoir, la liberté de relever ma moitié. Quand je suis en colère, quand j'entre en conflit, je peux relever ma moitié, et c'est ce que nous faisons normalement dans un conflit. Nous rompons, dans un sens, pour un moment au moins, nous rompons la relation, nous sortons de la relation. Tout dépend jusqu'où on lève sa moitié. Regardez l'image en bas. Nous pouvons lever notre moitié de façon à ce que si nous continuons, nous arrivons chez Dieu, auprès de Dieu, au milieu de cette difficulté. Si nous relevons notre moitié totalement, nous avons une planche devant la tête. Spread vorm Kopf. Et ça veut dire que nous ne comprenons plus rien, nous perdons tous les moyens, nous sommes bloqués, barrés. Il n'y a plus rien qui marche. Mais j'ai aussi la liberté de baisser ma moitié de nouveau, librement. L'autre ne peut pas m'empêcher. C'est ma liberté. De la baisser, de rétablir, comme nous avons dit, la relation. De me placer tout devant et dire, oh, je suis là. Je suis là dans la relation. Nous pouvons laisser à l'autre la liberté de prendre le temps nécessaire pour baisser sa moitié. La relation sera rétablie véritablement quand les deux moitiés seront baissées. Mais ça fait partie de notre liberté de nous occuper de notre moitié du pont librement. Et si nous le faisons en nous soumettant vraiment au Seigneur, ça nous permettra de relever notre moitié moins souvent, d'arriver à l'abaisser plus rapidement, de pouvoir avoir plus de patience d'attendre que l'autre puisse aussi baisser la sienne. Mais s'il vous plaît, ne vous fournissez pas de crochets avec lesquels on pourrait essayer de tirer la moitié de l'autre. Laissez-lui sa responsabilité, sa liberté et son temps. Voilà, merci Jean-Jacques. Apprendre à veiller sur soi-même veut dire aussi se protéger. Et là, j'aimerais vous donner quelques pistes de protection. Quelques pistes bibliques de protection. Des pistes de protection qui ne nous séparent pas de l'autre, mais qui permettent que, à travers des choses difficiles à vivre, nous ne soyons pas blessés. Nous ne soyons pas terrassés. Mais que nous puissions rester debout. Une première piste, je l'ai vécue d'une façon très claire dans cet entretien dont je vous ai déjà parlé, où il y avait ce jeune homme qui m'a dit, quand j'ai essayé de lui expliquer, il avait mal compris certaines choses que j'avais dites. J'avais essayé, j'avais fait une ou deux tentatives de lui expliquer. Il m'a dit très sèchement, « Je vous ai écouté maintenant pendant 2 jours. » Et maintenant, c'est vous qui m'écoutez. J'ai dit, d'accord, je vous écoute. Et je n'ai plus dit un mot. J'ai écouté. Mais j'ai fait une expérience très intéressante. J'étais derrière une table. Pas dans l'entretien, il n'y en avait pas. Mais intérieurement, il y avait une table entre lui et moi. Vous connaissez cette table? Elle se trouve dans le psaume 23. Tu dresses une table entre moi et mes adversaires. C'est frappant de voir qu'on peut être assis derrière cette table. Dans des situations difficiles, si ça vous reste accroché dans votre mémoire, ce psaume, la table du psaume 23, faites l'expérience. D'être derrière cette table, c'est une protection incroyable. Comment cette protection, elle se montre? Elle se montre de façon à ce que vous puissiez tout entendre. J'ai vraiment tout entendu, mais rien prendre dans votre cœur. C'est compréhensible? Entendre, garder, Ne pas le rejeter, ne pas dire c'est une idiotie, c'est une bêtise, il n'a pas le droit, etc. Recevez, mais ne le prenez pas. Ne le mangez pas, le gardez. Qu'est-ce qu'on fait après ? J'ai dit à ce jeune homme, normalement il y aurait eu quelque chose le soir qui m'aurait intéressé, j'ai décidé de ne pas y aller. J'ai dit à ce jeune homme, écoutez, je vous ai entendu. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je ne reçois pas votre jugement sur moi. Mais je vais prendre tout ce que vous m'avez dit et je vais l'étaler devant le Seigneur. Et je vais dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu me dis par rapport à toutes ces choses ? Et comme j'ai dit déjà, aussi dans ce reproche qui était démesuré de ce jeune homme, il y avait certaines perles que le Seigneur m'a montrées. Il a dit là, et là, et là. Et le Seigneur a fait le tri. Il m'a fait comprendre des choses importantes. Il m'a fait comprendre des choses qui étaient très importantes aussi pour mes enseignements. J'avais dépassé certaines limites d'honnêteté. Parce que j'avais pas compris que selon la culture, la limite jusqu'où on peut aller dans l'honnêteté n'est pas la même. Si on la dépasse, on blesse les gens. Par l'honnêteté qu'on a, on les dépasse. Ça devient une agression pour eux. Il y a un seuil qu'il ne faut pas franchir. J'ai appris des choses importantes à travers cela. Alors c'est ça, prendre et puis étaler devant le Seigneur et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en fais, toi ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Digérer la table. La table est vraiment d'une très grande aide. Depuis ce moment, j'ai vécu d'autres moments, mais c'était la première fois où je l'ai vécu d'une façon si claire, si concrète, cette table entre moi. Une table entre moi et la personne, l'adversaire. Une table que le Seigneur dresse. C'est la table du Seigneur, pour finir. Une autre piste très concrète, je me rappelle aussi, quand je l'ai découverte, était liée au fait que nous avons tendance, et je crois que pas seulement dans nos milieux, je crois que c'est une tendance humaine générale, à faire passer des messages indirects. Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'était dans un moment de prière, dans mon bureau d'ailleurs, avec des collègues que j'appréciais, il y avait la prière d'un collègue, où j'ai senti qu'à travers cette prière, il voulait me faire passer un message. Et là, dans ce moment de prière, j'ai dit, fini. À partir de maintenant, je ne ramasserai plus aucun message indirect. Parce que je l'avais fait de ramasser des messages indirects. Et j'avais posé la question, est-ce que tu as voulu me dire ? Et j'ai compris quand les gens ne peuvent pas vous dire directement ce qu'ils veulent dire. Ils sont incapables d'être honnêtes face à vous si vous le leur demandez. Ça a créé de nouveaux problèmes que j'ai posé cette question. J'ai compris les messages indirects, je les laisse par terre. Moi, je ne les ramasse plus. C'est une mesure de protection. Ce que quelqu'un ne peut pas vous dire directement, vous pouvez le laisser de côté. C'est un choix. Une troisième piste. Il y a un grand piège dans notre communication, c'est ce que j'appelle le piège de l'interprétation. Et je vais vous donner par un exemple, je vais essayer de vous expliquer par un exemple ce que c'est. C'est un exemple aussi de mon travail. Il y a une personne qui avait été très blessée dans son enfance, fille d'une prostituée, toujours dans des familles, après un an, ça n'allait plus, il y avait cette grande assistante sociale, c'était, pour elle, l'assistante sociale était toujours une grande femme maigre, je sais pas comment, ce stéréotype, qui est venu la prendre par la main et dit, ça va pas non plus ici, à la prochaine famille, et pour finir, elle aboutit dans un home pour enfants. Quelqu'un de très blessé. Elle était venue à la foi, mais il y avait une telle souffrance dans cette vie, il y avait beaucoup d'amertume dans cette vie. Elle était dans une cellule de maison. Une soirée, elle arrive, il y avait déjà deux femmes qui étaient là, qui parlaient entre elles, et au moment où elle arrive, elle s'arrête de parler. Elle change de sujet. Ça, voilà, ce sont les fêtes. Hein? Mais, le problème n'est pas dans les fêtes. Mais maintenant vient l'interprétation. Quelle est l'interprétation? Exactement. Elles ont parlé de moi. Elles n'ont sûrement pas dit des choses très bonnes de moi. Pour finir, est-ce qu'elles m'aiment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime? Personne ne m'aime. Vous comprenez la spirale de l'interprétation? Il n'y a personne qui m'aime. Mon existence est un fardeau pour tout le monde. Le mieux serait que je n'existe plus. Vous comprenez? Alors, spontanément, dans cette soirée, toujours quand l'une de ces deux femmes a fait une remarque, elle a attaqué contre, elle a dit le contraire. Hein? Et ces deux femmes ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'elle a contre nous, tout à coup? Qu'est-ce qu'elle a? Alors, tout le monde est rentré, tout le monde avait beaucoup à pardonner aux autres. Vous comprenez? La prochaine fois, elle arrive dans la cellule de maison, et qu'est-ce qu'elle voit? On a préparé quelque chose pour sa fête. Elle avait sa fête. Et ces deux femmes avaient commencé à préparer sa fête. C'était tout. Elles ne pouvaient pas continuer parce que ça devait être une surprise. Vous comprenez? Elles ont dû s'arrêter. Le piège de l'interprétation. Mes amis, j'ai vraiment cherché à comprendre ce phénomène. Il y a un phénomène qui se trouve chez tout le monde. Chez tout le monde. Quand il y a un fait, une chose qui arrive, nous avons toujours un certain nombre de choix d'interprétation possibles. J'ai vérifié cela avec des couples. Nous choisissons toujours l'interprétation la plus blessante pour nous. C'est ça notre tendance. Nous choisissons toujours l'interprétation la plus blessante et la plus vexante pour nous. Celle qui est juste serait celle qui très souvent n'a rien à faire avec nous. Est-ce que ce phénomène, vous le comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui est la solution? Quelle est la piste pratique? La piste pratique serait de savoir freiner cette tendance d'interprétation et de savoir rester au fait. Si elle avait tout simplement dit, elles ont arrêté de parler quand je suis arrivé. C'était le fait, sans commencer à comprendre pourquoi, ça ne l'aurait pas blessé. C'était un fait. Si nous pouvons arriver à arrêter, à ne plus toujours tomber de nouveau dans ce piège de l'interprétation, ça nous éviterait énormément de blessures. Mes amis, il y a une chose qui est certaine, nous devons beaucoup pardonner que les autres ne nous ont jamais fait. Non, c'est vrai. Le mal n'a pas été fait, le mal a été créé. Nous avons créé la blessure en nous-mêmes par notre interprétation, c'est tout. Alors, si nous apprenions à rester au fait et de ne pas entrer dans cette spirale négative de l'interprétation, nous pourrions éviter énormément de blessures. Une dernière possibilité pour nous protéger, c'est apprendre à communiquer sans calcul. Apprendre à communiquer sans calcul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'exprime ce que j'ai envie d'exprimer et à travers mes paroles, je n'essaie pas de faire quelque chose avec toi. Je n'envoie pas un message. Je ne veux pas avoir une emprise sur toi. Je dis ce que j'ai à dire, c'est tout. Apprendre à communiquer, à parler sans calcul. Tout simplement dire ma conviction, par exemple, sans réfléchir déjà. Comment est-ce qu'il faut que je dise pour que Charles ou Paul ne réagissent pas comme ça? Apprendre à dire ce que j'ai à dire, tout simplement. Et puis c'est tout. Et les autres ont la liberté de réagir et de faire ce qu'ils veulent, sans calcul. Là encore, je constate, il y a des gens, pense à une rencontre avec un collègue d'ailleurs, où j'ai senti que dans chaque chose, dans chaque phrase, dans chaque regard, il y avait comme un but qu'il a voulu atteindre. Oh, qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que c'est agaçant. Toujours le calcul derrière, dans tout ce qu'il a fait. Incroyable. Je pense qu'il n'était pas conscient de ce fait. Et qu'est-ce que c'est détendant de parler avec des gens, on a l'impression qu'il n'y a pas de calcul. Ils disent ce qu'ils ont sur le cœur. Ils expriment. Ils expriment librement et ils laissent la liberté. Il n'y a aucun aspect de manipulation ou de message indirect ou de vouloir faire le potier avec l'autre, vous voyez, qui le forme un peu. Communication sans calcul. Pour nous protéger. Vous vous rendez peut-être compte déjà aussi que ce qui nous protège, protège nos relations. Si nous savons nous protéger, nous devenons des vis-à-vis avec lesquels il est simple de communiquer. Parce que nous savons nous protéger, en même temps ça protège les autres. Apprendre à veiller sur soi-même. Là aussi, on pourrait parler de beaucoup de textes bibliques, parce que ce thème de veiller sur soi-même est un thème que la Bible connaît très bien. J'ai cherché quelques textes, je suis tombé par exemple sur Proverbe 4, 23, où il est question de garder son cœur. Garder son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire garder son cœur? Veiller sur son cœur. Je crois que nous n'avons même pas besoin de définir ce que ça voudrait dire. Si vous êtes devant des choix, vous pouvez vous poser la question, est-ce que ça fait du bien à mon cœur, oui ou non? Et vous saurez que choisir. Veiller sur votre cœur veut aussi dire, je prends la responsabilité de voir ce que je laisse entrer dans mon cœur. Ce que je laisse entrer par exemple par mes yeux, parce que ce qui entre par nos yeux, elle entre aussi dans un sens dans notre cœur. Quelles sont les choses dont je m'occupe? Qu'est-ce que ça a comme effet sur mon cœur? Garder son cœur. Garder son cœur du mal, garder son cœur d'être de cette corruption dans un sens, d'être pris dans le piège de ce que je ne voudrais pas, au fond, savoir garder son cœur. Il est aussi question de veiller sur ses pensées. Et là, je peux vous dire, c'est vrai, on le sait en psychologie, nous avons vraiment la possibilité de veiller sur nos pensées. Nous pouvons choisir sur quoi nous voulons réfléchir. Et dans Philippiens 4, 8, Paul dit, il énumère, il dit, tout ce qui est bien, à cela, réfléchissez à cela. Donc, savoir devenir maître de nos pensées. Un autre texte de Paul qui parle du fait de prendre prisonnier nos pensées. Hein? Je crois qu'il y a vraiment quelque chose là à découvrir, que nous sommes maîtres de notre pensée. Nous sommes maîtres de cette partie consciente de notre être. Il y a des parties de notre être dont nous ne sommes pas maîtres dans un sens, que nous ne pouvons pas tout simplement influencer. Il y a une partie qui nous échappe. On peut demander au Seigneur de veiller sur cette partie, mais nous-mêmes, mais là, sur le penser, là, il y a la possibilité d'apprendre à veiller. Est-ce que vous avez déjà appris à pouvoir mettre dans vos pensées un stop? Je crois qu'il faut intervenir d'une façon très claire. Si vous vous dites, il vaudrait mieux pas réfléchir à cela, ça ne vous servira à rien du tout. Il faut vraiment vouloir clairement arrêter. Si vous dites stop, et là je m'arrête, vous arrivez à vous arrêter. Mais il faut vraiment être très clair face à cette partie en vous qui aimerait continuer à aller dans ces endroits qui ne font pas du bien, pour finir. La même chose avec les émotions. Nos émotions sont quelque chose de très important. Jésus en avait beaucoup. Qu'est-ce qu'il en avait des émotions? Il fut pris dans ses tripes. C'est une des expressions les plus claires de ce qu'il y avait. Il était triste, il a pleuré. Il avait beaucoup d'émotions. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Il ne s'est pas laissé diriger par ses émotions. Vous savez, les émotions, ça crée de la couleur dans la vie. Et c'est très beau, la couleur. Mais ce n'est pas les émotions qui doivent prendre la décision. Je vous donne un petit exemple de Jésus. Quand il a reçu le message que Lazare était mort, il nous a dit comment il a réagi. Je crois qu'il a dit qu'il avait pleuré. Mais il n'est pas parti à ce moment-là. Il est parti 3 jours plus tard. Il ne s'est pas laissé pousser par ses émotions. Il faut que j'y aille. Il a attendu. Il a attendu jusqu'à ce qu'il ait, de la part du Père, le message, vas-y. Il a attendu. Je crois que les émotions, il faut savoir s'occuper de nos émotions comme on s'occuperait d'un petit enfant. Il faut savoir nous prendre par la main. Il faut dire à notre angoisse, tu peux venir avec moi, mais j'y vais quand même. Tu peux venir avec moi, mais j'y vais. Tu ne m'arrêteras pas. Prenez au sérieux ces émotions, mais ne vous laissez pas régir. Il y a un autre Seigneur dans votre vie. Alors, vivre avec des émotions, mais ne vous laissez pas faire. Si vous écoutiez vos émotions, vous ne pardonneriez jamais. On ne peut pas attendre que les émotions soient prêtes à pardonner. Il faut y aller. Les émotions sont de berne. Elles sont très lentes. Il faut les devancer parfois, avec notre volonté, hein. Alors, tout cela, veillez sur nous-mêmes. Veillez sur ces paroles. Oh là là. Je ne vous lirai pas Jacques. Jacques 3, 1 à 12, vous pouvez le lire une fois. C'est tellement clair. Et vous savez, dans un sens, Jacques arrive à une conclusion très réaliste. Il dit, on n'arrive pas à brider vraiment notre langue. Cet encouragement que ma femme avait reçu dans son enfance, je ne sais plus par qui, la monitrice de l'école du dimanche ou quelqu'un qui avait dit, mets-toi un bœuf sur la langue. Même avec le bœuf sur la langue, on arriverait encore à le faire jeter en l'air pour que on puisse bouger cette langue. Je crois que la solution pour toutes ces choses, la langue, les pensées, peut-être le plus pour la langue, parce qu'il y a quelque chose de si direct. J'ai l'impression que la langue n'est pas reliée à notre cerveau parfois. Elle est reliée à autre chose. Ça se met en action. Et on court après les paroles et après on les regrette. Je crois que là, il y a le problème de pouvoir et d'être obligé de demander, Seigneur, transforme mon cœur, pour finir. Parce que c'est du cœur que sortent, que viennent ces paroles. Tout ce qui peut nous amener dans des conflits. Pour conclure cette partie, j'aimerais vous lire un texte Romains 13. J'aimerais lire les versets 8 et 10. N'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime son prochain a pleinement accompli la loi. Et le verset 10, l'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Dans un sens, en y réfléchissant, je suis arrivé à une conclusion très simple. Si nous pouvons grandir, croître dans cette capacité d'aimer comme Dieu aime, dans cet amour indépendant, ça engloberait tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Je crois que celui qui aime vraiment, il est protégé dans un sens. Celui qui aime vraiment, il sait veiller sur soi-même. Celui qui aime vraiment peut s'exposer, être attaqué, entrer dans des conflits, mais rester debout et continuer à aimer. Celui qui aime vraiment, il vivra quelque chose de cette réalité que la parole nous dit aussi, l'amour parfait bannit la crainte des hommes aussi. Et je crois que je pourrais reprendre le système de tuyaux, soit dans le triangle, soit seul, et dire, si le Seigneur peut faire couler son amour à travers nous, il élargit le canal de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a plus d'amour qui peut nous traverser. Et je crois que cet amour, s'il peut vraiment couler à travers nous, c'est comme si cet amour enlevait les dépôts. Parce que ce qui rétrécit le canal aussi, ce sont tous ces dépôts. Le péché, par exemple, est un dépôt dans ce système. Le péché empêche que l'amour coule. La crainte des autres, le refus, l'incapacité de recevoir les autres, toutes ces choses rétrécissent le canal. Et j'ai l'impression parfois que si le Seigneur pouvait augmenter cet amour à faire traverser à travers notre personne vers les autres, et il y aura dans le moment du culte la possibilité que vous disiez, Seigneur, je suis là. Je me décide aujourd'hui de devenir dans toutes mes relations un canal de ton amour. Et j'aimerais que tu puisses me faire traverser avec plus et plus d'amour. Vous verrez des conséquences dans tous ces domaines. Vous serez mieux protégés. Vous aurez moins besoin de veiller sur vous-même. Vous serez moins blessés. Vous aurez moins à pardonner. Vous aurez moins besoin de demander la guérison pour les blessures que les autres vous ont faites. C'est quelque chose de cela qu'on vit justement dans la personne de Jésus. Cet amour de Dieu qui était là avec une telle force que cette protection à l'intérieur de sa personne était là. Il a pu traverser cette passion sans être un homme terrassé et blessé. Le seul libre qui pouvait aller à la croix et supporter tous ceux qu'il a supportés à la gloire de Dieu, pour nous, mais pour le Père. Voilà, et maintenant j'aimerais passer directement au temps de questions, c'est-à-dire je vous donne une petite minute peut-être de silence, et puis après on fera comme ça, on vous passera tout simplement le micro, pour que tout le monde puisse comprendre la question, que je n'ai pas besoin de la répéter. Un petit moment de silence.